Bienvenue à ceux qui n'étaient pas là et merci aux autres d'être restés pour cette séquence qui est une table ronde qui va vraiment servir d'introduction au spectacle qui sera donné dans 1 heure. On se retrouvera aussi après le spectacle pour ceux que ça intéresse avec les comédiens pour un bord de scène, comme il est coutume de pratiquer au Grand Air, avec les 3 comédiens qui vont donner le spectacle. Je crois que d'après ce que j'avais vu avec eux, ils l'ont déjà donné 150 fois en 2 ans, donc ils sont assez rodés et c'est pas prévu que ce soit arrêté. Pour éventuellement aussi leur poser toutes les questions que vous souhaitez leur poser sur comment le spectacle s'est monté et pourquoi, 40 ans après, on parle toujours de Radio Lorraine Cœur d'Acier. On dira LCA pour aller plus vite dans nos échanges. Je vais brièvement vous présenter nos invités. Ingrid est, ou je sais pas comment, ou Aïès.
Ça n'a pas d'importance.
Moi, j'ai un copain qui s'appelle, qui a le même nom que toi, et c'est est. Donc, Ingrid
C'est
est,
toujours ça.
Qui est
ouais, non, c'est Aïs.
Ou
non,
Aïs.
C'est Hayes.
Hayes, Ingrid Hayes, donc historienne, chercheuse en histoire, notamment spécialisée sur les luttes sociales, qui a fait sa thèse en histoire en 2011 sur justement la Radio Lorraine Cœur d'Acier, comment ça s'insérait dans les luttes sociales et économiques. On va commencer par toi juste après. Marcel Trias, pour ceux qui ne connaissent pas. Une grande figure du journalisme français. Je suis très honoré de t'avoir avec nous. Alors, ça ne nous rajeunit pas, mais qui avait commencé sa carrière notamment dans 5 colonnes à la une, qui était, à mon avis, le premier magazine d'investigation en tant que tel qu'on se le représente maintenant en France. Et qui était un des piliers de LCA, puisqu'il a participé à l'intégralité de l'aventure, en tant que journaliste avec ton confrère Dupont.
Jacques Dupont.
Jacques Dupont, voilà. Et Pierre Boucard. Alors, je me suis trompé dans la présentation, donc je vais te laisser le faire toi-même.
En fait, je représente ce soir aux côtés le Syndicat national des radios libres, qui est un peu la continuité de ce qu'était, ce que se sont devenus les radios libres.
Voilà, on est passé effectivement des radios pirates, dites pirates, aux radios libres, bascule en 1981. Donc, Ingrid, ce que je pense que c'est important de reposer le contexte de LCA dans le contexte alpha économique de l'époque. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça s'est créé?
Et en fait, Lorraine Cœur d'Acier se situe un peu au croisement de 2 chronologies. D'une part, le mouvement des radios libres, qui a démarré en 77 et qui effectivement dure jusqu'en 1980, tu viens de le rappeler. Donc, il y a eu à un moment donné un peu une traversée du désert pour le mouvement des radios libres parce qu'il y avait une répression relativement importante par l'État. Et il y a eu une rencontre entre une partie des radiolibristes et une partie du mouvement syndical qui a permis de donner un second souffle à une partie des radiolibres, en tout cas. Et c'est dans ce contexte-là que, du côté de la CGT, on s'interroge sur qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ce terrain, même si la CGT a jamais revendiqué le terme radio libre. Et puis la deuxième chronologie, c'est celle de la sidérurgie, évidemment. Alors, sidérurgie qui, en 79, enfin, en l'occurrence, le début de la mobilisation, c'est décembre 78. Et en décembre 78, c'est pas non plus le début de la crise de la sidérurgie, c'est-à-dire que ça fait déjà 15 ans que la sidérurgie est en crise. Il y a eu la crise des mines de fer d'abord dans les années 60, et puis ensuite la crise de la sidérurgie. Ce qui fait la différence, sans doute, en 79, c'est que c'est la première fois qu'il y a autant de suppressions d'emplois et de licenciements prévus, puisqu'on est à plus
C'était le plan
de...
d'Avignon, c'est ça?
Alors, le plan d'Avignon, c'est ce qui a été mis en place au niveau de ce qui s'appelait à l'époque la Communauté économique européenne, et pas encore l'Union européenne. C'est un plan de réduction de la production et de quotas de production surtout. Le décembre 78 et les suppressions d'emplois au niveau français, c'est pas directement le plan d'Avignon. Là, c'est en gros la sidérurgie est en état de faillite. Les grandes entreprises sont en état de faillite, à tel point que l'État va en prendre le contrôle, en fait, en transformant la dette en créance d'État, et va à ce moment-là mettre en place ce plan de suppression d'emplois. Donc
Qui concernait combien d'emplois?
on est à 21 700 à peu près suppression d'emplois, sachant que jusque-là, il y avait déjà eu des plans de suppression d'emplois, mais avec reconversion ou des départs essentiellement de retraités, donc qui ne mettaient pas des gens au chômage. En gros, c'est aussi ça la rupture en 79. Et bon, voilà, donc il va y avoir derrière une très grosse mobilisation de la population. Avec Longwy, c'est une population de 20 000 habitants. Il y a eu une première manifestation de 20 000 personnes. Alors, évidemment, ce n'était pas que des Longoviciens, mais c'est pour vous dire l'ampleur de la mobilisation. Donc ça, c'est à partir de décembre. Et puis, première radio libre à s'intéresser à Longwy, ça a été en fait une radio de la CFDT, qui s'appelait SOS Emploi, mais qui n'avait pas du tout, qui n'a pas eu pignon sur rue comme Radio Lorraine Cordassier.
Non, puis j'étais déjà dans l'après, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on perçoit quand on s'appelle SOS Emploi, ça veut dire qu'on a déjà accepté, en fait, a priori, les choses et qu'on est là pour aider les gens peut-être à retrouver autre chose. Je ne sais pas, c'est une projection que je fais. Alors, par rapport au nom de la radio.
Oui, j'avais jamais pensé les choses en ces termes-là, mais ouais, c'est. Bon, je ne sais pas comment ils le vivaient, eux. En tout cas, pour le coup, c'était une radio vraiment très clandestine qui enregistrait dans la forêt une émission par semaine. Voilà. Ouais. Mais cela dit qu'il y a eu un très fort impact symbolique, avait mis le SOS Emploi sur le crassier à Longwy, etc. Et derrière, la CGT confédérale qui cherchait un endroit pour lancer sa première expérience de radio de lutte, qui a hésité entre Denain, Longwy, puis finalement c'est Longwy qui a été choisi pour des raisons techniques, et donc mars 79, Lorraine Cœur d'Acier est émet pour la première fois à Longwy.
Et de ce que j'avais vu, elle n'avait pas vocation à perdurer, c'était pour mobiliser les troupes pour une grosse manifestation qui devait avoir lieu à Paris, c'est bien ça?
Oui, là, il y avait une manifestation quelques jours plus tard, le 23 mars à Paris, qui a été une très grosse manifestation, et en fait la radio était censée surtout aider à mobiliser. Et il n'était pas prévu qu'elle dure plus que quelques jours, au maximum quelques semaines. Elle s'est ensuite installée dans la durée.
Finalement, ça a duré 18 mois.
C'est ça.
Marcel, donc, toi, tu étais de l'aventure. Comment ça s'est passé? Comment le contact s'est fait entre toi qui étais journaliste à Paris, mais aussi, je rappelle, militant CGT? Et comment toi et Jacques Dupont, vous avez été contactés ou recrutés? Je ne sais pas, comment ça s'est fait? Comment vous êtes retrouvés à Longwy pendant 18 mois à faire de la radio? Parle plus près du
d'abord, micro. Pour le contexte, il y a aussi un autre élément du contexte, c'est que fin 78, il y a eu le congrès de Grenoble de la CGT. C'est un très grand congrès. C'est le congrès qui est animé par Georges Segui et comment s'appelle ce vieux dirigeant, ancien résistant. Pardon ? Non. Plus ancien. Frachon. Benoît Frachon. Et le congrès de Grenoble est très important, c'est le congrès de l'ouverture. Les thèmes du congrès, c'est la CGT doit se démocratiser, elle doit se distinguer du parti, parce que jusque-là, on n'avait pas trop la distinction. CGT, Parti communiste, c'était un peu la même chose. Et Segui dit non, c'est pas la même chose. La CGT n'est pas réservée aux ouvriers communistes. C'est tout ouvrier qui souhaite combattre pour ses revendications et le bienvenu à la CGT. Et puis ça doit se démocratiser, ça doit s'ouvrir, voilà. Et c'est ça qui va permettre, c'est cette ambiance générale, si tu veux, qui va permettre à Lorraine Cœur d'Acier d'exister. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme l'a dit Ingrid, il y avait à Longwy une radio pirate qui s'appelait SOS Emploi, créée par la CFDT. Alors il faut dire aussi que la CFDT Longwy, ce n'est pas la CFDT nationale. La CFDT Longwy, c'est des battants. Hein. Et d'ailleurs, ils étaient très copains dans la vie avec ceux de la CGT. Même s'ils avaient des différences, il y a un peu ce que tu disais tout à l'heure, une espèce de résignation dans le nom même de cette radio SOS Emploi, ça veut dire que bon, c'est foutu, maintenant il faut trouver d'autres emplois, quoi. Alors que la CGT...
C'est comme ça, moi je l'ai interprété, en connaissant nullement le dossier et tout, c'est juste le nom qui m'a fait penser ça.
Voilà, alors que la CGT disait on ne doit pas déboulonner le moindre écrou de la sidérurgie, c'est pas on va trouver d'autres emplois, il ne faut pas perdre cela, quoi. Bon, une nuance quand même importante. Et alors, ils avaient cette radio, ils avaient un petit émetteur, une toute petite antenne, et je crois que c'est chaque jour, hein, à 7 heures du soir à peu près, ils allaient dans les bois autour de Longwy, ils grimpaient au sommet d'un arbre, ils avaient enregistré une cassette de 25 minutes, et ils la diffusaient.
Puis après, ils se carapataient, voilà, pour ne pas se faire repérer par...
Parce qu'il y avait déjà la goniométrie pour repérer les émissions. Et donc, en gros, ils pensaient qu'au bout de 25 minutes, ça devenait dangereux. Les flics allaient arriver et piquer le matériel.
Pour rappeler aux gens qui ne savent pas qu'effectivement, il y avait les radios dites illégales étaient extrêmement suivi et pourchassé par les autorités qui mettaient en œuvre des moyens techniques pour repérer les lieux d'émission de radio et éventuellement fondre dessus pour choper le matériel et les gens. Il y en a qui ont été condamnés à diverses peines de prison. Donc voilà, c'était une sorte de ce qu'on appelle un peu maintenant de la résistance, enfin de la désobéissance civile.
Ouais.
C'était une forme de résistance citoyenne à l'interdiction des ondes.
C'est surtout qu'ils piquaient le matériel.
Oui, c'est ça. Bah,
le principal, quoi. Et ils avaient créé cette radio avec l'aide de Radio Fessenheim, qui était une radio verte, autour de la centrale atomique de Fessenheim, en Alsace, pas très loin. Et c'est eux qui les avaient aidés à créer cette radio, et qui était entendue par quelques centaines de personnes, mais qui avait un prestige extraordinaire, c'était Robin des Bois, quoi. Voilà. Et donc les militants de la CGT, qui étaient très fortes à Longwy, dans la sidérurgie. D'ailleurs, il faut rappeler que la sidérurgie était la seule industrie, pratiquement, la seule grosse industrie de la région, parce que les patrons de la sidérurgie avaient empêché toute autre industrie de s'implanter. Pas de concurrence.
Oui, pour éviter d'autres recrutements.
Voilà.
Et puis avoir tout le monde un peu sous la coupe.
Ce qui fait que la sidérurgie se cassant la gueule, il n'y aura plus rien. Quoi. C'est ce que les gens se disent tout de suite. Il faut résister à tout prix. Et alors, ils appellent les militants de la CGT de Longwy, qui étaient des grandes gueules, des durs, italiens à entre 50 et 60%, je crois. Tu le sais peut-être mieux que moi, mais c'est de cet ordre-là. Hein. C'était des purs et durs, quoi. Hein. Et ils appellent la Confédération et ils disent « On veut notre radio. La CFDT a sa radio, nous on veut la nôtre. » Alors, la CGT qui commençait à s'interroger sur la nécessité, ça crée des contradictions, puisque la CGT, comme le Parti communiste, soutenait le monopole d'État des radios et télévisions. Donc ils étaient un peu en contradiction. Ben, tant pis, quoi. Hein. À la guerre comme à la guerre, quoi. Alors, ils envoient deux journalistes dont ils savaient qu'ils s'intéressaient à ces choses-là. Mon ami Jacques Dupont, qui était un espèce de bricolo qui, dans son coin, fabriquait des mini-cassettes de propagande politique pour les députés communistes. On était tous les deux militants du Parti communiste aussi, en étant de la CGT. Et puis moi, parce que moi, il se trouve que j'avais travaillé avec deux copines pendant 3 mois à la création d'une radio municipale à Montreuil.
Ah oui.
Voilà.
Projet qui avait échoué, puis je crois que...
On avait bossé, mais comme des chiens, pendant 3 mois. On avait contacté toutes les associations, les syndicats, les partis, etc. Et on avait préparé tout un programme de radio, quoi, hein, des émissions de toutes sortes. Et on avait travaillé avec un musicien pour les
jingles,
etc. Enfin bref, on était prêts, quoi. Et puis au moment d'appuyer sur le bouton, la veille, on va voir une association qui devait intervenir le premier jour. Et ils nous disent « Mais vous n'êtes pas au courant ?» On dit « De quoi ?»« Ben, elle ne se fait plus, la radio. »« Ah bon ?» Non, la municipalité a décidé de ne plus la faire parce que c'est trop dangereux, finalement. Bon, le parti avait peur de se faire interdire aussi, enfin bref. Et les seuls qui n'étaient pas au courant, c'était nous.
Il y a beaucoup de cas de figure qui ressemblent à ça. C'est toujours les premiers concernés qui sont au courant.
Voilà. Bon, mais n'empêche qu'ils savaient que moi, j'étais prêt, quoi. Et donc, on est envoyé à Longwy avec un responsable de la CGT et on rencontre les grandes gueules de l'Union locale et des syndicats d'Usinor. Usinor, Saint-Cylor, je ne sais plus ce qu'il y avait, il y a plusieurs entreprises sidérurgiques. Et on discute. Alors, on leur dit, bon, la première chose, c'est que si on fait une radio, c'est pas la peine de faire la même chose que la CFDT. Essayons de faire autre chose. qu'il y ait plus d'impact et plus de qu'il soit plus intéressant. Et on dit, voilà, il faudrait qu'il y ait un lieu ouvert où les gens puissent venir, entrer et sortir, intervenir à la radio ou téléphoner et intervenir en direct, mais qu'il y ait pignon sur rue. Seulement, le problème, c'est que dès qu'on commence à émettre, au bout d'une demi-heure, une heure, les flics arrivent et cassent tout. Alors là, ils disent, ils hésitent même pas une seconde, ils viendront pas.
C'était un contexte un peu particulier pour les interventions.
Ils viendront pas, effectivement, pendant un an et demi que cette radio, sous cette forme-là, sous la forme dont on va parler, a existé. Dès que les flics arrivaient à 5 km de Longwy, on était prévenus, on l'annonçait à la radio, et dans les minutes qui suivaient, il y avait 500, 700, 1000, 2000, 3000 personnes autour de la radio.
Ils faisaient corps.
Ils sont jamais venus.
Ouais. Voilà. Ce que j'ai trouvé cocasse en redécouvrant l'histoire, parce qu'on a entendu parler dans les médias, c'est un peu. J'en parlerai avec Pierre après, mais c'est un peu pas une sorte de mythe, mais c'est quelque chose qui est inscrit dans l'histoire des médias, de toute façon. Les studios étaient installés donc dans la mairie, avec l'accord de la mairie.
Ils étaient installés dans le siège désaffecté de la mairie, voilà. De Longwy-Haut, parce qu'il y a Longwy-Haut,
Longwy-Bas, mais avec l'aval ou l'anneau, en tout cas
la mairie communiste.
Et l'émetteur, si je me souviens bien, et l'antenne d'émission était dans le clocher de l'église avec l'aval du curé.
Voilà.
C'est un peu le côté Don Camillo, on va dire. Non, mais ça symbolise la mobilisation quand même générale.
L'église était juste à côté, voilà. Donc il y avait.
Et comme c'est souvent le point le plus haut.
C'était le point le plus haut, donc ça a arrosé toute la région. Et
jusqu'à combien de kilomètres ça a diffusé, diffuser?
Ça allait, je sais pas moi, peut-être dans certaines directions 100 km.
Ah oui, quand même, ce qui était assez énorme pour l'époque.
Elle était prévue pour aller jusque Nancy en fait, mais le brouillage assez vite a fait que la diffusion a été beaucoup plus limitée et a fini par se limiter vraiment au bassin de Longwy.
D'accord, qui était vraiment le plus intéressé de toute façon. Ouais.
Oui, alors ne pouvant pas empêcher cette radio d'émettre, ils sont mis à la brouiller. Alors, ils ont commencé à brouiller avec des hélicos.
Oui, il y a quand même des gros dispositifs mis en place. Hein, pour.
Ah oui, oui, ils ont mis le paquet. Hein. Et alors, les hélicos sont partis brouiller. Et puis, le lendemain ou surlendemain, ils ont interpellé les autorités en disant, écoutez, les mecs, nous, on a regardé sous le cockpit de l'hélico, il y a des traces de balles. Il y a des mecs qui nous ont tiré dessus au fusil. Alors, vous voyez,
un peu tendu.
On arrête, quoi.
Un peu tendu.
On se calme. Alors, ils ont dit, bon, on va envoyer des avions, parce que les avions, ça passe
plus haut.
Ça passe plus haut, et on ne peut pas leur tirer dessus. Alors donc, les avions sont venus brouiller, et c'était une catastrophe. Quand ça brouillait, on n'entendait plus rien. C'est comme Radio Londres, quoi. On n'entendait plus que dalle, quoi. Alors là, c'est mis en place une petite équipe de. Parce qu'il y a toujours des
fans. Toujours des bricolos.
Des bricolos, etc. Une petite équipe qui s'est mise en place, qu'on appelait les débrouilleurs. Alors, dès que quelqu'un appelait pour nous dire je vous entends plus, je suis brouillé, etc., hop, on envoyait les débrouilleurs, ils arrivaient, ils avaient un petit matériel. Alors, moi, je ne connais rien en technique, je ne suis pas du tout technicien, mais ils utilisaient des fils de fer, des antennes, etc., qui passaient dans la baignoire, dans l'eau de la baignoire.
Et par une prise de terre.
Voilà, une cage de Faraday, je ne sais pas quoi.
Ils en parlent dans le spectacle qu'on verra tout à l'heure, justement, de ça. Ouais.
Mais d'une efficacité incroyable, c'est qu'ils débrouillaient vraiment les gens, quoi.
Et pour donner la parole à Pierre maintenant, pour faire un peu le tour de table avant de retourner sur les choses. Toi, en tant que militant actif, en tout cas des radios libres depuis pas mal d'années, quelle image a LCA dans le pays, dans le paysage. En tout cas, vous êtes dans les héritiers. Enfin, LCA a permis, avec d'autres, de passer un cap de la légalité. Mais quelle image reste de LCA dans l'univers des radios?
En fait, ça fait partie de ces radios mythiques, effectivement, qui ont construit le paysage radiophonique dans ce qu'il représente aujourd'hui. C'est vrai que c'est un bel héritage, parce que Moi, j'ai 45 ans, donc j'ai découvert les radios pirates en étant sur Nantes, et c'est aussi ce qui a fait que je suis un peu tombé dedans et qui a fait que je suis passionné par ce média. Mais tout ce travail qui a été fait, ce militantisme et puis cet acharnement, parce que c'était un véritable combat qui a été mené par toutes ces personnes pour créer un paysage médiatique ouvert à tous. Et encore cette situation, je me dis souvent en fait que la radio a la chance d'avoir justement cette possibilité aujourd'hui en France, parce que je pense que c'est un univers un peu spécifique, et spécifique dans le sens où peu d'autres types de supports permettent comme ça à des personnes extérieures de venir faire des émissions. Aujourd'hui encore, des personnes passionnées par un sujet peuvent venir s'exprimer à l'antenne des radios associatives. Et on le doit justement à vous, qui avez justement construit cette possibilité, qui avez ouvert cette possibilité, et cette possibilité de parler librement sur des antennes. C'est assez unique dans le monde, parce que souvent quand on discute aussi avec des radios communautaires dans d'autres pays, eh ben, ils n'ont pas la chance d'avoir autant de radios associatives à disposition. Et donc on s'en rend pas compte, parce qu'aujourd'hui c'est naturel, mais c'est une vraie chance qu'on a en France grâce à ce combat qui a été mené à la fin des années 70.
Et ce qui était très singulier et ce qui fait le particularisme de LCA, au-delà de sa longévité, au-delà du combat, c'est la notion d'essayer de pousser le curseur de la liberté d'expression au plus loin possible. C'est-à-dire, il y a eu des désaccords d'ailleurs entre CGT Paris, je crois, et CGT local, c'est-à-dire que vous avez conçu, en accord avec les personnes du coin, une radio qui permettait à n'importe qui de passer. C'est ce qu'on essaie un peu de reconstituer aujourd'hui avec tous les groupes et autres. N'importe qui passe en studio pouvait dire ce qu'il voulait. Vous aviez invité à l'époque, il y avait des grosses rivalités, c'était 10 ans après mai 68, donc ce qu'ils appelaient les gauchistes. Donc c'était ouvert aussi bien aux trotskistes qu'aux lambertistes, qu'aux maoïstes, etc. Tout. Ça rendait dingue apparemment certaines personnes à Paris. Il y a eu les femmes qui ont pu s'exprimer, qui ont créé leurs propres émissions, les étrangers qui étaient assez en nombre aussi, notamment les Algériens, qui ont créé leur émission avec, pour la première fois en France sans doute, une émission en langue arabe. Voilà. Donc je voulais poser la question à Ingrid, c'est aussi ça, c'est au-delà de l'aventure de la simple, entre guillemets, défense des emplois et d'un bassin, ça a été l'élévation, et on voit, et on entendra tout à l'heure dans le spectacle, pour ceux qui le verront, que ça a été l'aventure d'une communauté, ça a créé des liens. On parlait du racisme tout à l'heure avec le groupe précédent, ça permet que les gens se connaissent mieux et surtout de s'exprimer le plus librement possible, autant que le permette la Constitution.
Si Ingrid est d'accord, est-ce que je peux dire un mot là-dessus?
Oui, parce que vous connaissez tous les deux, donc...
Excuse-moi. Non, parce que j'ai parlé de la première partie de la discussion avec eux quand on est monté les voir, et puis on est passé à la deuxième. On leur a dit, avec Dupont, vous voulez une radio libre. Vous avez dit que vous vouliez une radio libre. Ouais. Et bon, ben nous, pour nous, une radio libre, on prend ça au pied de la lettre, quoi. Une radio libre, c'est une radio où la parole est libre. C'est-à-dire où tout le monde peut s'exprimer.
Même ceux qui ne pensent pas comme nous.
Même ceux qui ne pensent pas comme nous.
Et là, ça a dû bloquer un peu, voilà, sur certains noms.
Alors, on était en pleine campagne pour les européennes. Je dis, par exemple, les politiques qui sont de passage, et qui pour la campagne des européennes, qui font leur propagande, quoi, ils sont invités à leur Laurent Cardassier, sauf le Front National, parce que ça, c'est pas une opinion. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc eux, ils professaient ouvertement le racisme, donc eux non, mais si des gens prennent la parole pour défendre ces idées-là, on discutera avec eux, mais on n'invite pas le Front National. Mais
je crois qu'il y a même une réflexion, il y en avait un qui avait dû dire, on verra tous les politiques qui passent, même ceux de droite. Oui, même ceux de droite.
Non, c'est pas ça. Non, ils ont d'abord dit, alors, quand on leur a dit ça, on les invite tous, on a dit, les socialistes.
Oui, ceux de droite, c'est bien ce que je dis.
On dit, bah oui, évidemment.
C'était considéré comme ça.
Quoi, vous n'êtes pas capable de discuter. On dit, c'est très simple, vous serez là, c'est votre radio. Mais pour défendre ses idées, il ne faut pas faire taire les autres. Il faut être meilleur dans le débat avec eux. Il faut faut convaincre. Il ne faut pas censurer. Bon, ce que font nos adversaires. On ne va pas faire comme nos adversaires. Alors, ils disent, bon, d'accord. Et puis, ils disent, pas la droite. Vous avez peur de la droite? Discuter avec la droite? Mais c'est lamentable. Alors on dit, bon, d'accord. Et puis il y en a qui dit, pas les gauchistes.
Ah. Là, c'était pire que la droite.
À l'époque, hein, 79. Ouais. Et on dit, comment ça, pas les gauchistes? Ce que vous appelez les gauchistes, c'est eux qui ont le discours le plus proche du vôtre. Si on vous lit des textes des gauchistes, et vous ne serez pas capable de reconnaître votre texte parmi ceux des gauchistes. Sur plein de choses, ils sont complètement d'accord avec vous. Alors là, ils ont dit, il faut qu'on cause. Alors, on est sortis, telle fumée des clopes dans l'escalier, on entendait des éclats de voix. Et puis, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ils nous ont rappelé, ils nous ont dit, banco.
D'accord.
Et ça a été banco pendant... un an et demi, la parole a été complètement libre à Laurent Cadassier. Complètement libre. Alors, les gens qui venaient parler d'une lutte en cours avaient toujours priorité. S'il y avait une grève qui se préparait quelque part, etc., ils distribuaient plus de tracts. C'était la radio qui diffusait. Mais à part ça, la parole était complètement libre. Il y avait toutes sortes d'émissions littéraires, scientifiques.
Oui, c'est une vraie radio avec plein musicale, de thématiques, des directs, de la musique.
La poétique, etc. Ouais. Il y avait un poète, un institut de poète qui faisait des émissions poétiques. Il disait ses poèmes, mais aussi il faisait des émissions sur Victor Hugo, Aragon, Baudelaire, etc. Enfin bref. Et puis on a eu aussi beaucoup de chance, il faut dire, parce qu'il y avait, on a beaucoup fait appel aux profs du coin, des lycées du coin, et parmi eux, il y avait un jeune professeur qui s'appelait Gérard Noiriel, qui était complètement inconnu à l'époque, évidemment, et qui est aujourd'hui l'un des plus grands historiens spécialistes de l'immigration. Et qui est universellement connu, qui vient d'écrire récemment une histoire populaire de la France, qui est un livre extraordinaire. Et on avait ça à Longwy, vous vous rendez compte? Et on l'a tout de suite détecté avec Dupont.
En parlant de travaux universitaires, je voulais redonner la parole à Ingrid. Moi, je m'étais posé la question, est-ce qu'il y a suffisamment de matière? En fait, qu'est-ce qui a pu donner l'idée de s'intéresser effectivement à Radio Lorraine Cœur d'Acier jusqu'à en faire une thèse, parce qu'une thèse, c'est quand même un travail conséquent de recherche. Et comment est-ce que tu as conçu ton travail?
Alors, au départ, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la période. C'est-à-dire que la mobilisation dans la sidérurgie, c'est 78-79, ça reprend en 84. Entre-temps, il y a l'élection de François Mitterrand, qui avait promis qu'on reviendrait en arrière sur, et qui n'est revenu en arrière sur rien. Et finalement, les choses, il y a eu un deuxième plan 84 qui aggravait encore la situation. Donc j'avais vraiment l'impression qu'on était sur un point de bascule. C'est-à-dire, on était sur un point de bascule à la fois sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan économique, évidemment, puisque on a tendance à considérer aujourd'hui que 79, c'est un peu la fin de la phase qui s'est ouverte à la libération, quoi. Et donc c'est d'abord ça qui m'intéressait. Je voulais creuser cette dimension-là. Et ce que je ne savais pas quand j'ai commencé ma recherche, c'est que j'allais tomber sur les enregistrements des émissions.
Oui, c'est assez énorme, ça.
Et ça, forcément, ça a totalement changé la manière dont j'ai mené ma recherche. C'est-à-dire
tout
qu'au...
C'est-à-dire, ouais, pour les gens qui ne savent pas, à l'époque, toutes les émissions ont été enregistrées. Il y a 987 cassettes, si je me souviens bien. Et notamment parce que la CGT nationale, qui finançait en partie aussi le projet, je pense, avait demandé à savoir un peu ce qui se passait peut-être dans le coin. Donc, tout a été enregistré. Donc, était tombé là-dessus comme un... sur un trésor, quoi.
En fait,
Parce que les autres n'enregistraient pas du tout, quoi. Il n'y a pas de traces des autres.
Il n'y avait pas du tout de pratique d'enregistrement dans les autres radios libres, qui étaient plutôt dans l'immédiateté,
dans le
direct. Et en l'occurrence, comme la CGT voulait avoir un regard sur ce qui se passait, tout était enregistré. Alors cela dit, comme les choses se sont progressivement tendues, ils ont fini par arrêter d'envoyer les enregistrements à Paris, mais il y a quand même une grosse partie qui y est, et au moment où moi j'ai entamé ma recherche, en fait, ils étaient en train de les numériser. C'est-à-dire les cassettes, ça rappelle des souvenirs à certains d'entre nous. C'est bien les cassettes, mais c'est casse-pied, et puis ça casse, surtout, c'est fragile. Et donc ils ont numérisé, alors cela dit, ils n'ont pas numérisé la totalité des émissions, Ils ont fait des choix un peu aléatoires, mais en gros, en considérant qu'il fallait garder tout ce qui était directement lié à la sidérurgie ou la Lorraine, ce qui veut dire que toute une partie des contenus culturels, etc., ont été... Ils n'ont pas disparu, les cassettes existent toujours, mais en tout cas, ils n'ont pas été numérisés. Mais du coup, bon, voilà, je me suis retrouvée à pouvoir, à pouvoir écrire une histoire, y compris la parole ouvrière et de ce que cette expérience disait des rapports sociaux, non seulement entre ouvriers, mais aussi entre ouvriers et d'autres catégories sociales qui ont participé à l'aventure de la radio.
Il y a un moment, on aura un morceau dans le spectacle, sans vouloir le dévoiler, mais, parce que le spectacle, c'est à la fois, il est à la fois poétique, il nous amène dans un univers, mais il colle très près de la réalité. Et ça, c'est pas la base, c'est pas LCA, puis après on fait autre chose. Il y a vraiment, c'est super bien fait. Il y a un ouvrier qui aimait beaucoup écrire et s'exprimer, il a découvert en quelque sorte que lui aussi était un intellectuel. Une sorte de, c'est un peu comme, il y a dans le film Uranus, là, il y a Gérard Depardieu qui est dans son café, là, puis qui... Il y a des vers qui lui viennent de partout. Et tout, où M. Jourdain et sa prose, effectivement. Et là, lui, il aime beaucoup réfléchir, il est capable d'écrire, il adore ça et tout. Il se dit, mais je suis un intellectuel, en fait. Mais il me dit, et il dit, mais si je suis un intellectuel, alors je trahis ma classe. Si je suis un intellectuel, je deviens un bourgeois. Et en fait, voilà, il y a plein d'événements comme ça. Il y a des gens qui se sont révélés, je pense, à eux-mêmes, dans cette aventure, qui est multiple, qui est unique en France, en fait. C'est ça. Donc, je te redonne la parole.
D'accord,
je ne sais plus du tout pourquoi j'étais arrivé là, en fait.
Je reprends la parole, alors. Après, ce qui est... comment dire, on disait tout à l'heure qu'il y a un aspect mythique de Lorraine Cordassier. Alors, ce qui est paradoxal, parce qu'encore une fois, la CGT n'a jamais parlé de Radio Libre. C'était la radio de lutte de la CGT. Mais effectivement, ça a été un mythe parce qu'il y a eu cette capacité à aller un peu au bout, comme tu disais, des possibilités en termes de liberté d'expression. Sans non plus mythifier, c'est-à-dire que vous êtes militant de la radio, vous le savez, il ne suffit pas d'ouvrir un micro pour que soudain la parole se libère. Les choses sont quand même...
On a essayé cet après-midi, voilà. la liberté peut, en général peut faire peur.
Oui, et puis les rapports de domination qui structurent la société, ils jouent aussi sur la capacité des uns ou des autres à s'exprimer. Donc voilà, c'est pas... Il y a eu un certain nombre, parce que parmi les gens qui se sont investis dans la radio, et notamment parmi ceux qui n'étaient pas ouvriers, qui étaient enseignants, etc., il y avait beaucoup de post-68ards, d'une certaine manière, et qui réinvestissaient un peu ce qu'avait été leur combat et leurs idéaux en 68, dans cette idée qu'on allait donner la parole à ceux qui l'avaient jamais. Et le grand intérêt de Lorraine Cordassier, c'est qu'à la différence de toutes les autres radios libres, ils se sont retrouvés avec une population mobilisée. C'est-à-dire que là, pour le coup, ils étaient en situation de faire parler une population qui était déjà mobilisée, qui était en lien avec la radio. C'est-à-dire que ce n'était pas juste un truc à froid où on essaye de provoquer une relation avec la population. Là, en l'occurrence, cette relation a été immédiate, organique. Bon, et c'est aussi ça qui fait que l'expression a pu se libérer. Encore une fois, avec les limites que j'indiquais. Et au passage, je précise, les gauchistes, il y en a eu fort peu. La droite est venue une fois. Bon, c'est
c'était sur le principe de départ.
Voilà,
alors,
pour l'essentiel, je caricature, mais pour l'essentiel, juste pour terminer, les débats, il y a eu, hein, mais c'est quand même des débats qui, pour l'essentiel, étaient internes au monde de la CGT et du Parti communiste, débats qui étaient fort nourris, hein, à l'époque. Mais c'est quand même d'abord ça qui s'exprimait.
Je suis obligé de te contredire.
Je t'en prie.
Parce qu'il y avait un homme dont je me souviens bien, je crois qu'il s'appelait le docteur Delivret, qui était médecin du travail à Usinor et qui dirigeait la section du RPR de l'ENWI, et qui est venu, puisqu'on avait dit que tout le monde pouvait venir, il est venu, et il est venu régulièrement. Et d'ailleurs, ça a posé des problèmes dans des deux côtés, parce que ses copains lui disaient « Mais quoi, tu vas chez les cocos, etc. » Mais moi, je suis reçu de manière très sympathique. J'ai la libre parole, on débat, on discute, on n'est pas toujours d'accord. Je vois pas pourquoi j'irais pas, parce que je suis très bien reçu. Et de l'autre côté, il y en a qui disaient « Quoi, un gaulliste, etc. ?» Et on disait « Mais il est très intéressant, parce qu'en plus, comme médecin du travail d'Usinor, il avait beaucoup de choses à dire. » Et bien, il est venu pendant des mois, régulièrement, à Lorraine Cordassier.
Et pour rebondir
donc c'était, sur... c'était des vrais débats avec des gens qui étaient... Et puis alors, je te rappelle aussi que les petits commerçants venaient à Lorraine Cœur-Dessier, dont une, la, celle qui fabriquait des car, qui vendait des caravanes.
Jocelyne Casavecchia.
Jocelyne Casavecchia, qui non seulement était une militante de la radio, alors qu'elle n'était pas du tout cégétiste, et, mais c'est elle qui a créé une, l'émission des enfants de Lorraine Cœur-Dessier.
Et donc c'était pour rebondir ça, là, aussi sur ce que disait Ingrid avant, est-ce que il était proposé aux gens, à n'importe qui de venir prendre la parole, donc la liberté d'expression totale, est-ce qu'ils s'en sont emparés facilement? Ou parce que effectivement, les gens n'avaient pas l'habitude de s'exprimer, de pouvoir donner leur opinion, etc. Tout, c'était pas dans... Est-ce qu'ils se sont emparés facilement de cette possibilité ou ça a été plus compliqué?
Il fallait ruser, hein. Par exemple, tu as fait allusion tout à l'heure à un personnage qui a été un des grands personnages de Lorraine Cœur-Dessier,
ah oui,
c'est Marcel Donati.
Marcel Donati, on verra.
Qui était un... fils d'Italien,
ah, puis grande, grande gueule,
pur et dur, etc. Une grande gueule. Et lui, il disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? La radio de la CGT donne la parole à nos adversaires. Est-ce qu'eux, ils nous donnent la parole sur leur radio? Pas du tout, etc. Et donc, il était très contre au début cette histoire de liberté de parole. Mais il écoutait. On a su qu'il allait jardiner, par exemple. Il était ouvrier à Usinor. C'est pas Usinor, c'est une autre boîte de la sidérurgie, là, celle de, du village voisin. Pardon ?
Il était à Rouen, lui.
Rouen, oui. Et on a appris qu'il allait jardiner. Il avait toujours sa radio. Il écoutait Lorraine Cœur-Dessier tout le temps. Et même dans l'atelier, ils avaient aussi des radios dans les usines pour écouter Lorraine Cœur-Dessier. Et on voyait qu'ils venaient, parce que le dispositif ressemblait un peu à ça, mais avait des grandes différences. C'était dans ce hall de la mairie, hall désaffecté, ils avaient construit une petite casemate en contreplaqué, mais avec des vitres sur les, à la place des murs, quoi. Il y avait des grandes baies, on pouvait voir... De s'installer autour et voir ce qui se passait, et c'était sonorisé, tout le hall était sonorisé. Et on voyait qu'il était toujours là. Le soir, quand il sortait du boulot, il était là, mais il ne voulait pas parler. Il voulait pas avoir... Non. Et puis, le problème, c'est qu'il était responsable syndical. Et tout ce qui était lutte avait priorité. Donc, un beau jour, il y a eu un déclenchement d'une grève dans son atelier. Et comme il était le chef, ses copains lui disent, mon pote, hein, il faut que tu ailles à Lorraine Cœur-Dessier parler. Alors, bon, bah, il était coincé, quoi. Il a été obligé de venir parler. Et évidemment, avec Dupont, ça faisait des mois qu'on attendait l'occasion. On ne l'a pas loupé, quoi. Là, on l'a fait raconter ce qu'il avait à dire sur cette lutte. Et puis, peu à peu, on lui a posé des questions plus personnelles, quoi. Et il a commencé à raconter sa vie. Et là
la boîte était ouverte.
Je vous dis pas. Je vous dis pas. Quand il a raconté que quand il avait 17 ans et qu'il débutait à l'acierie, et que vous savez, l'acier en fusion, il y a des coulées, quoi. Et qu'il y a une coulée qui a débordé et qu'il y a 7 ouvriers qui ont été pris dedans, quoi, hein. Donc... comment trouver le mot, ils ont été brûlés, quoi. Mmh. On entendait les mougeolets, hein, quand il racontait ça. Mmh. Et quand il a raconté aussi que... Parce qu'il s'est fait avoir, quoi. Il s'est mis à faire ce qu'on appelait le passé-présent, qui était une émission où les gens racontaient leur vie. Et lui, il dit, bon, ben voilà, on a improvisé un passé-présent avec lui, et il a raconté... qu'il était né à Rayon, cette usine de Rayon. Il y avait des baraques dans le périmètre de l'usine où habitaient les ouvriers. Des baraques, s'appelaient les baraques d'ailleurs. Et quand il est né, il était donc sa mère, ses parents vivaient dans une de ces baraques. Et le contremaître est passé la voir. Et ils ont vu qu'il y avait le toit, il y avait un trou dans le toit en tôle, et il pleuvait sur le lit où il était. Et le contremaître a vu ça, quoi. Il a dit, c'est pas possible, ils sont venus réparer le toit, quoi. Tu vois, bon, ces baraques, c'est quand même incroyable. Hein. Ils vivaient dans des baraques, dans le périmètre de l'usine.
Et pour revenir à la radio, c'est une question que j'adresse à tous les deux. Je reviendrai vers toi, Pierre, tout à l'heure, pour parler un peu plus de l'actualité. Mais comment était financée la radio ? Parce que ça nécessite. Vous étiez deux journalistes professionnels, vous étiez payés pour faire votre boulot. Il y avait le matériel, il y avait les frais et tout. Comment ça fonctionnait financièrement pendant 18 mois ?
Ben, au début, il n'y a pas de problème, puisque c'est pour aider l'organisation de la marche sur Paris des sidérurgistes. Ça doit durer quelques semaines. Et donc, c'est la CGT qui paye.
La CGT nationale ?
Nationale, oui, la Confédération. Et puis quand la marche sur Paris est terminée, on dit, bon, ben, on va fermer la radio. Et là, les mecs, ils nous disent, non, mais ça va pas la tête. À fermer la radio, mais vous plaisantez.
On commence tout juste à s'amuser.
Il n'est pas question du tout de la fermer. Et on dit, mais oui, mais là, c'est la Confédération ne pourra plus payer parce qu'elle doit créer d'autres radios et ce n'est pas possible. Donc ils ont créé une association des amis de Lorraine Cœur d'Acier. Et ils allaient faire des quêtes à la sortie des grands magasins, à la sortie des usines, à toutes les occasions, sur les marchés, etc. Et puis, de temps en temps, on était en train de parler.
Il y a des images de ça, effectivement, sur un documentaire.
Une mère qui arrive avec son sac à provisions, qui le renverse sur la table, et il y a tous les pièces et les petits billets qui tombent. Et ils ont financé la radio pendant un an et demi comme ça. Alors, quant à nous, on était officiellement payé par la vie ouvrière pour garder notre carte de presse. Mmh. Et l'association des amis de la CA remboursait à un euro près, ou un franc, c'est encore des francs peut-être à l'époque, ce que ça avait coûté.
Oui, des nouveaux francs même. Mais de ce que un des comédiens disait quand on l'a vu, les lycéens, cette semaine, et ce qu'on voit dans les documentaires, c'est quand même... l'attachement des gens à cette radio est devenu une adhésion. Quand on voit les mobilisations dès qu'il y avait des CRS, et il y a un moment, ils ont dû collecter à l'époque 400 000 francs lourds, qui correspondraient peut-être à 400 000 euros aujourd'hui, je ne sais pas.
Ils disaient 40 millions, je crois.
Hein, ouais, 400 000 francs nouveaux.
Ils parlaient en anciens francs.
Ah ouais, c'est ça, non, d'accord. En tout cas, ça a permis des gens qui étaient en plein plan de licenciement. Qui était dans la lutte ouvrière et tout, ils arrivent à mobiliser pour faire payer, pour faire vivre cette radio. Et ça, c'est quand même... c'est un des marqueurs, en tout cas, de l'attachement extrêmement profond. Et, puisque je vois que l'heure avance et autres, est-ce qu'il est possible aussi de raconter comment ça s'est terminé ? Parce que c'est pas que tout a une fin, mais en tout cas, là, il y a eu une fin.
Pour répondre sur les deux choses à la fois, même s'il n'y avait qu'une question... En fait, on peut sans doute se dire que la radio s'est en partie substituée, parce que la défaite est arrivée très vite, en fait. La radio se met en place en mars 1979. Au mois de mai, en réalité, les mobilisations sont à peu près terminées. Et en juillet, la convention sociale est signée. C'est les mesures d'accompagnement. Bon. Et la radio,
en 6 mois, quoi. Voilà.
Voilà. Et la radio continue à émettre encore un an. Et on peut sans doute considérer qu'elle s'est aussi substituée. C'est-à-dire, finalement, elle a incarné la dignité ouvrière, la poursuite de la lutte, etc. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, 40 ans après, la mémoire est au moins localement et encore aussi conflictuelle. Alors, le problème étant, comme tu le disais, que ça ne s'est pas hyper bien terminé, ou qu'en tout cas, ça s'est terminé de manière conflictuelle, justement. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui encore... c'est très important, quelle que soit la manière dont les gens s'étaient positionnés au moment de la fin 1980, c'est très important pour eux de se revendiquer de la légitimité de Lorraine Cœur d'Acier. Alors comment ça s'est terminé ? En fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que la Confédération CGT aurait bien arrêté avant, hein, mais avant, ouais, elle n'était pas en mesure d'arrêter. C'est-à-dire que le rapport de force local, bon, et puis... Après, je ne sais pas combien de temps la radio aurait encore pu durer. Sans doute qu'elle n'aurait pas duré jusqu'en 2020. Et en tous les cas, voilà, une partie des gens étaient retournés travailler. Bon, y a eu un moment où ça a été plus simple pour la Confédération, en alliance avec l'Union départementale, de d'essayer de monter les uns contre les autres, etc. Et puis les choses se sont passées assez simplement, c'est-à-dire qu'à l'été 1980, la couverture de la vie ouvrière que Marcel mentionnait a été interrompue. Et donc, dès lors qu'il n'était plus couvert de cette manière-là, en réalité, ça mettait un terme à leur contrat, à leur activité de journaliste. Et la radio s'est tue du jour au lendemain. Elle a été ensuite été rouverte sous une autre formule qui a duré très peu de temps et qui était assez peu radiogénique, à dire vrai. Mais voilà, ça s'est arrêté d'un coup. Et ensuite, il y a eu reprise en main du côté de la CGT départementale et locale. Et en fait, toute la partie... En gros, il y avait une partie des militants CGT qui étaient très opposés à cette reprise en main, mais qui ont été progressivement marginalisés. Et d'autre part, des militants qui n'étaient pas des militants de la radio, qui n'étaient pas des militants CGTistes, et qui, eux aussi, une fois que les choses se sont remises dans le cadre interne de la CGT, se sont retrouvés relativement marginalisés. Et pour autant, c'est ces groupes-là qui ont incarné la mémoire légitime de... Alors, légitime, il n'y a pas de mémoire officielle de la radio, mais en tout cas qui, de fait, ont incarné la mémoire légitime pendant des décennies après. Bon, là, on est, disons, au niveau national, en phase de réconciliation. Au niveau local, c'est pas encore le cas.
Oui, c'est juste pour... t'inquiète, je te redonne la parole tout de suite. C'est 40 ans après, donc les blessures ou les fractures sont toujours présentes, selon quel camp on avait choisi, quel bord on avait choisi.
Et ce qui, encore une fois, démontre, c'est juste en une phrase, démontre, je crois, à quel point la radio en est venue à incarner bien plus que la radio. C'est-à-dire que c'est un marqueur de la mémoire qui n'est pas juste la radio, mais qui est l'incarnation d'un passé révolu et des luttes et des combats, etc.
Oui, deux mots sur la fin. Il faut aussi rappeler le contexte aussi. Le contexte, c'est que c'est Guy qui a soutenu la radio, qui correspondait à ses conceptions, et peu à peu marginalisé à la direction de la CGT au bénéfice de Krasuki, qui a été le seul dirigeant qui se soit opposé à la tournure prise par le congrès de la CGT de Grenoble
en 78.
Il a pris date là. Et peu à peu, aidé par Georges Marchais, qui influençait les communistes de la CGT, il a été marginalisé, Segui, et à Longwy, la liberté de parole faisait que, par exemple, nous, on faisait une revue de presse tous les jours avec l'aide des gens. Tout le monde attendait la revue de presse. On se marrait beaucoup, d'ailleurs, pour la faire. On la faisait à partir des radios qu'on avait entendues le matin et des journaux. On y allait carrément, quoi. Et en particulier, il se passait des choses à ce moment-là dans les pays dits socialistes qui n'était pas très catholique, si je peux dire.
Oui, hein. C'est une façon de dire.
Bon, on étalait ça sur la table et on disait ce qu'on en pensait.
Oui, donc c'était pas forcément bien perçu.
Alors il y a certains personnages des purs et durs de Longwy qui appelaient Paris en disant « Vous vous rendez compte, la radio de la CGT, ils sont en train de dire du mal de nos camarades soviétiques, etc. » Nous, on n'avait rien à foutre, on disait ce qu'on pensait, quoi. Hein. Et les gens aussi, les gens qui allaient en vacances dans les pays dits socialistes, ils revenaient puis ils racontaient ce qu'ils avaient vu. C'était pas toujours terrible, quoi. Hein. Donc, à un moment, ils ont mis fin à la récréation. Mais ce que je tiens à dire, c'est que donc cette radio a été créée par la CGT, elle a été brisée par la CGT un an et demi après, mais 40 ans après, c'est la CGT qui a édité le coffret qui est là, qui s'appelle « Un morceau de chiffon rouge ».
Oui, pour les personnes qui ne savent pas, que c'est très intéressant, c'est qu'il y a un coffret là qui a été édité, ouais. Il y a dedans 4 CD d'enregistrement audio et un documentaire d'une heure, presque une heure et demie, avec que des images d'époque. Il filmait aussi.
Une équipe qui est venue du début à la fin.
Une équipe qui a fait, c'était très, très novateur, ouais. C'est ça, par exemple. Merci, Florence. Ouais. Et pour les personnes qui sont intéressées, il y a un livret de l'an à la quête, il y a toute l'histoire, et puis on se plonge dedans. C'est hallucinant, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique, quoi.
Et alors, ce coffret-là a été édité par la même CGT.
Oui, mais...
Parce que la CGT d'aujourd'hui, en particulier quelqu'un qui était à l'époque où on l'a fabriqué ensemble avec d'autres, qui était secrétaire général du syndicat de la métallurgie, qui a beaucoup participé et qui a fait beaucoup pour que ça soit possible, en disant ça fait partie du patrimoine de la CGT, ce qui s'est passé là-bas, même si on a fait des conneries à l'époque, c'est ça, un certain Philippe Martinez, qui depuis est devenu dirigeant de la CGT.
Un monsieur qui a des moustaches.
Voilà.
Oui, il y a aussi un livre absolument excellent.
Voilà. Ça, je
vous conseille la lecture.
C'est positionné là-bas, ça, pour les personnes qui sont intéressées. Ouais. Pierre, je me retourne vers toi, que tu ne sois pas venu pour rien. Mais je pense que quand on les écoute tous les deux, c'est vrai que
c'est passionnant.
C'est difficile. Il faut faire une sorte de pas de grand bond en avant pour faire un parallèle avec ce qui s'était passé, mais on voit ce qui était étonnant dans l'histoire. Moi, j'ai vu ça comme ça. Dans l'histoire des radios, en fait, le but là n'était pas de créer une radio pour créer une radio. En fait, la radio n'a été que le vecteur d'une lutte. Et c'est le contraire aussi à tout ce qui se faisait à l'époque. Les radios voulaient être pour beaucoup des radios, c'est pas musical ou autre, c'est pas forcément lutte. Aujourd'hui, on voit avec le développement et l'avènement d'Internet, la radio est encore plus universelle. Et en revanche, elle n'est pas forcément utilisée telle qu'elle a pu être utilisée à l'époque. C'est plus une radio de divertissement, je ne sais pas. Est-ce qu'il existe encore des grandes émissions ? Est-ce que ce sera encore possible d'une telle mobilisation, sachant qu'aujourd'hui, les moyens de diffusion sont beaucoup plus simples et ils sont libérés ?
Mais aussi, pour moi, il y a un paradoxe, c'est que je fais beaucoup... On peut très facilement faire le parallèle entre ce qui est en train de devenir Internet et ce qui est devenu la radio par rapport à cette aventure qui a démarré fin des années 70 et ce qu'elle est devenue. La chance qu'on a, c'est que effectivement la radio, par le son, c'est très simple à mettre en œuvre, c'est très simple à écouter, et par rapport à l'existence des radios associatives partout sur le territoire, permet à chacun de pouvoir s'exprimer et diffuser une parole.
Il existe combien d'ailleurs de radios associatives encore en France ?
Près de 650, 660 radios réparties sur le territoire, qui sont certaines, je dirais, issues des radios libres des années 70. Il en reste encore qui perdurent. Mais l'enjeu aujourd'hui, il est autour de la question du numérique. Et c'est là où notre travail qui a débuté il y a 15 ans.
Je peux rappeler peut-être, il y a pas mal de gens qui n'étaient pas là, quand tu dis notre travail de
En fait, je travaille pour le syndicat national des radios libres, voilà. Qui est en fait un syndicat qui est issu aussi de l'aventure des radios pirates et des radios libres des années 80. Et en fait, on a effectivement eu cette crainte de voir disparaître les radios associatives avec potentiellement la fin de l'aventure analogique, puisque pour rappeler aussi ce qui se passait, pourquoi ces aventures ont pu naître, c'est que, comme tu le dis tout à l'heure, le prétexte c'était la radio, mais la technologie s'y prêtait aussi. C'est-à-dire que les personnes étaient équipées.
C'est une rencontre.
Voilà. Il y avait un espace libre. Qui s'appelait la bande FM, et puis un coût de diffusion et un coût pour racheter des récepteurs qui étaient faibles et qui permettaient de développer cette parole et en tout cas de la diffuser assez simplement sur le terrain.
Et c'était
local.
Gratuit pour pouvoir l'écouter, ce qui est toujours le cas, ce qui fait la force aussi de Média Radio.
Et c'est anonyme.
Anonyme, oui.
Et c'est ça aussi qui était une grande force, c'est que les gens qui écoutaient cette parole de l'autre côté, ils étaient tranquilles de pouvoir entendre des choses. Ceux qui prenaient des risques, c'est effectivement ceux qui émettaient, parce qu'ils prenaient risque de faire confisquer le matériel ou de se faire arrêter. Mais pour faire perdurer cette parole, l'enjeu numérique, il est important. Et c'est le travail en fait, qui a été mené par le syndicat, entre autres, pour que les radios associatives puissent trouver une place sur une nouvelle norme qui s'appelle la radio numérique terrestre, ou le DAB+, pour ceux qui connaissent, et qui... pour nous, devait aussi, enfin en tout cas les radios associatives devaient trouver leur place sur ce nouvel espace de diffusion. Et c'est un enjeu qui a été important parce que...
Plusieurs années de combat, enfin,
non seulement
c'est aussi un combat. Hein.
Plusieurs années de combat, mais aussi parce que les acteurs nationaux considérait qu'avec l'arrivée de la radio numérique, les radios associatives n'allaient pas avoir de place sur cet espace. Et donc ça a été un travail qu'on a mené pour convaincre le CSA et aussi les acteurs publics que les radios associatives devaient perdurer sur ce nouvel espace. Et donc on espère que tout ce travail qui a été mené et l'effort aussi qui est fourni par les radios associatives pour arriver sur le numérique là, depuis 2014 et à La Roche-sur-Yon depuis quelques mois.
Depuis 2019, oui.
Voilà, va permettre aussi de faire perdurer cette parole et pouvoir laisser cet espace de liberté pour que des personnes qui ont envie d'exprimer des choses puissent continuer à le faire à travers la radio. Parce que j'ai beaucoup plus d'inquiétude par rapport à ce qui va se passer sur Internet, où aujourd'hui on parle de liberté d'expression, on est en train de mettre en place des mécanismes de filtrage, des mécanismes aussi
de régulation
qui sont pour moi beaucoup plus inquiétants que ce qui est en train de se construire, en tout cas ce qu'on essaie de construire à travers le paysage radiophonique du futur sur le numérique.
Ok, merci. L'heure de la représentation de la création est arrivée. Je vois que les gens commencent à grimper. On se retrouve après le spectacle pour les personnes qui le souhaitent. On sera en compagnie éventuellement encore Ingrid et Marcel, mais aussi des comédiens du spectacle auxquels vous pourrez poser des questions dans le cadre du bord de scène, sur tout ce que vous souhaitez. Voilà. Merci et à tout à l'heure.